au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 bonjour. Alors, il y a une blague ici dans l'équipe. J'espère que vous l'avez comprise hier parce que habituellement, quand je demande aux gens pourquoi quatre fois bonjour, ils sont censés me dire qu'ils ne savent pas. Il y a juste Samuel qui s'en est pas rappelé. Alors, pourquoi on dit quatre fois bonjour, Samuel?
Ben, je sais pas.
Voilà, parce que c'est quatre fois mieux. Ben oui, c'est une autre belle journée. 14 août aujourd'hui, beaucoup plus frais pour ceux qui sont dans le sud du Québec. Et puis, je pense qu'on va avoir un beau week-end aussi. Et puis, ben, parlant de beauté, tiens, je vais lui faire un compliment. Salut, Yvan!
Mon Dieu.
Ça commence bien ce matin, hein?
c'est rare qu'on me fasse ce compliment-là.
Ah, même pas ta blonde. Écoute, je vais lui parler quand même, là.
Bonjour, Denis Martin.
Ça va bien. Alors, écoute, je voulais vous dire que c'est le 226e jour de l'année. Il en reste 139 avant qu'on puisse célébrer le bye-bye. Et puis, rapidement, c'est la fête nationale du Pakistan aujourd'hui, indépendance du Pakistan de l'Empire britannique en 1947. Et puis, bien, décès de l'actrice canadienne Dorothy Stratman en 1980, tragiquement assassinée à l'âge de 20 ans. Elle était Playmate, hein, on se rappelle de ça, pour Playboy. Et puis, 2003, je ne sais pas si les gens se rappellent de ça, il y avait un grand blackout sur une bonne partie du nord-est de l'Amérique du Nord, ainsi que l'Ontario et le Québec. Hein, c'était, si je me rappelle bien, c'était ces espèces d'orages solaires hein, qui avaient causé ça. Je sais pas si tu te rappelles de ça, Yvan.
Non.
Moi, j'habitais pas au Québec à l'époque, donc j'ai pas été touché par ça, mais on l'a bien vu. Ben écoute, on continue. Le tiers-monde, ben ça fait depuis, c'est en 1952 à ce jour que le démographe français Alfred Sauvy avait utilisé pour la première fois l'expression tiers-monde dans un article qu'il a publié dans l'Observateur. 1959, tiens, il est plus vieux que moi. Irvin Magic Johnson naissait. Et en 1980, c'était le début de la grève massive dans les chantiers navals de Gdansk en Pologne. Et c'est le mouvement ouvrier mené, ça fait longtemps, Lech Walesa, qui est à l'origine donc, du mouvement syndical Solidarność, qu'on se rappelle qui a vraiment changé les choses en Pologne à cette époque. Décès du pilote automobile et industriel Enzo Ferrari aujourd'hui. Bon, une grosse émission aujourd'hui. Tu nous parles de quoi, Yvan?
Ben moi, je vous parle d'un avancement majeur du côté de la situation des femmes dans le sport. En fin de semaine dernière, il y a une femme qui s'appelle Jen Paywall qui a arbitré, c'est la première femme qui a arbitré un match régulier de baseball, des ligues majeures de baseball. Mmh. On est en 2025, vous allez me dire, et je note. Mais on y est arrivé. On étant la planète, je veux dire, ou la planète baseball peut-être. mais c'est arrivé. Alors je vous raconte un peu les circonstances entourant cet exploit, si on peut l'appeler comme ça, et quels pourraient être les effets de ça sur d'autres femmes qui considèrent elles aussi. Faire leur avancer dans le domaine de l'arbitrage du côté du baseball. On va voir aussi dans d'autres sports qu'est-ce qui s'est passé.
Et on va rester dans le sport aujourd'hui parce que c'est le retour de ses vacances. Dominique Tremblay qui vient faire donc sa chronique sur le parasport. Et savez-vous, si j'ai bien compris, on va le rejoindre en direct du Brésil. Il serait à la ville de Curitiba qui accueille une Coupe mondiale de boccia. On sait que la boccia, c'est un sport que Dominique adore. Fait qu'il va nous parler de ça aujourd'hui. Je vais aussi vous parler à Coucher dehors, un spectacle immersif porté par l'artiste Jeannot Bournival qui parle, entre autres, d'itinérance. Et on va aussi parler de l'orchestre Film Harmonique sous la direction de Francis Choignard, qui va nous faire parler de son spectacle ce week-end, Marvel, la saga infinie, l'expérience concert. Et avant tout ça, ben, je vais aussi parler à ma très chère amie et collègue Anne Godin, conteuse acadienne et qui est aussi une ancienne journaliste, une ancienne animatrice de Radio-Canada, que je connais très bien. On est des bons amis dans la vraie vie. Et elle accepte à chaque année de me parler du 15 août. C'est demain le 15 août, la fête nationale des Acadiens. D'ailleurs, aujourd'hui, ça ne sera pas jeudi nostalgie ou jeudi rétro. Ça va être jeudi Acadie.
On porte toujours en soi
un peu de son pays. Et moi je n'oublie pas que je suis d'Acadie. Si mon histoire est triste, ce n'est pas votre faute. Mais soyons des artistes, écrivons-en une autre qui sera bien plus belle, beaucoup moins dramatique, avec des arcs-en-ciel, de la danse et de la musique. À partir d'aujourd'hui, bâtissons l'avenir en gardant du passé nos plus beaux souvenirs. Grand Pré, c'est là que tout a commencé. Grand Pré, c'est là que nous avions rêvé. Grand Pré, de bâtir un monde nouveau à l'abri des tempêtes au bord de l'eau. Grand Pré, c'était un peu le paradis. Grand Pré, les Indiens c'étaient nos amis. Grand Pré, à l'abri des arbres géants dans le bassin. Non, ils sont pas venus, les soldats, c'est pas vrai. Car dans la petite église, tous les hommes priaient. Les femmes à la maison préparaient le fricot. Les enfants dans les champs se réveillaient les troupeaux. Non, elle n'est pas venue, la si terrible guerre qui déchire les familles et crée tant de frontières. Si c'est ça mon histoire, je refuse d'y croire. Je préfère oublier ce qui est arrivé. Peuple qu'on a déporté, Grand Pré, une page d'histoire qu'on a déchirée, Grand Pré, les maisons, les fermes brûlées, tout ce qu'on avait bâti s'est effondré, Grand Pré, où sont les le blanc, les légères, sont-ils en Louisiane? Savoir où se trouve l'Acadie. Dans les prisons de Londres et dans les ports de Nantes, pendant de longues années, ils vivaient dans l'attente de pouvoir retourner chez eux en Amérique. On les a bien nommés les piétons de l'Atlantique, ces braves paysans qui venaient du Poitou, du Berry, de la Touraine, de la Bretagne, de l'Anjou. Ils avaient tout quitté pour un peu de liberté. On les a condamnés à vivre en exil. Grand Pré, je ne veux pas vous faire pleurer, Grand Pré, mais je ne peux pas oublier, Grand Pré, que mes ancêtres étaient français et tout ce qu'ils voulaient c'est vivre en paix. Grand Pré, nous n'étions que quelques milliers. Grand Pré, nous n'avons pas abandonné. Grand Pré, aujourd'hui nous pouvons rêver. 3 millions d'Acadiens et d'Acadiennes. Nous avons survécu, nous sommes les invaincus, nous nous sommes relevés, nous avons triomphé, nous connaissons la guerre, la faim et la misère, mais nous n'avons ni frontières, ni haine, ni regard en arrière. Marchons droit devant.
C'était Angèle Arsenault et sa chanson Grand Prix.
Angèle Arsenault, décédée hein, il y a quelques années. Angèle Arsenault, donc, dans cette chanson qui était pour célébrer les 400 ans de l'Acadie, qui a été donc pendant le Congrès mondial acadien de l'époque, qui avait lieu à Grand Prix en Nouvelle-Écosse, d'où ont été déportés les Acadiens. Et on connaît le reste de l'histoire. De toute façon, on va y revenir. Et puis, ben, moi, je le célèbre à chaque année parce que je suis un Acadien d'adoption. J'ai vécu 7 ans de ma vie en Acadie de la Nouvelle-Écosse et j'aime beaucoup la culture acadienne, et on va partager ça avec vous aujourd'hui. Alors, quelques-unes aujourd'hui. Vues et Voix est fière de vous inviter à sa conférence « Intelligence artificielle et handicap visuel, transformer l'accessibilité ». Cet événement 100% virtuel et gratuit aura lieu les 16 et 17 septembre 2025. Il rassemblera des experts de la technologie, de l'éducation et du droit pour explorer l'impact profond de l'intelligence artificielle sur la vie des personnes ayant une déficience visuelle. La conférence est l'occasion de comprendre les avancées de l'IA et d'agir ensemble pour bâtir un futur numérique plus inclusif. Vous y entendrez des experts comme Louis-Philippe Massé de Humanware et Maître Karina Kessarwan qui aborderont donc les thèmes allant des technologies d'assistance aux défis du droit d'auteur. Pour vous inscrire et participer à cette convention essentielle, visitez le site web dès aujourd'hui. Alors, c'est un petit peu compliqué pour ceux qui doivent noter ça à la main. Alors, je vous dirais, faites donc un Google search et faites conférencehandicapvisuel.com. Dans les actualités maintenant, et je vous rappelle que je fais ma revue de presse toujours assistée de l'intelligence artificielle de Gemini. Je vais vous parler du conflit de travail chez Air Canada. C'est quand même assez important. 130 000 personnes qui voyagent chaque jour sur Air Canada. Donc, la menace d'un conflit plane sur les opérations d'Air Canada, créant une onde de choc à travers l'industrie du voyage. Négociations qui sont au point mort entre la compagnie aérienne et le syndicat des agents de bord, qui sont suivies de près par des milliers de passagers et d'agences de voyage qui redoutent un arrêt de travail imminent. D'ailleurs, on a commencé à annuler des vols dès aujourd'hui. Alors, tout ça pour dire qu'il va falloir... Les recommandations, c'est si vous êtes capable d'annuler, annuler ou reporter, si les règles ont été changées et si vous devez retourner chez vous, vous devez revenir au Canada, attendez de recevoir un message d'Air Canada. Ils ont l'obligation de vous ramener en dedans de 48 heures et doivent donc faire appel à d'autres compagnies aériennes. Alors, faites valoir vos droits si vous êtes dans cette situation. Feux de forêt au Canada, la situation s'aggrave. La saison des feux de forêt continue de s'intensifier au Canada avec plusieurs provinces aux prises avec des brasiers hors de contrôle. L'Agence de gestion des urgences du Canada a mobilisé des ressources supplémentaires pour appuyer les équipes au sol et l'armée est en alerte dans plusieurs régions, notamment en Colombie-Britannique et en Alberta, mais aussi au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Il y a même un feu près de Miramichi où on est sur le pied d'alerte à savoir si on va devoir évacuer. On retourne à Judy Acadie.
Dans les arbres, c'est encore chez les érables dans le
Edith Butler et Lisa Leblanc dans le bois.
Ouais, deux générations qui chantent une belle chanson acadienne, hein, donc dans le bois. Ben oui, mm-hmm. Alors, on va aller voir Yvan. Comment ça va, Yvan?
Ça va très bien.
Et on a le goût d'ailleurs, de danser hein, quand on entend cette chanson-là.
Oui, ben d'autant plus que j'ai passé plusieurs de mes vacances avec Marie et les enfants dans le coin de Bouctouche. Mm-hmm. Et plus tard, on est allé souvent aux Îles-de-la-Madeleine, on y retourne à tous les deux ans. Alors, c'est une atmosphère, le 15 août, pour nous, c'est une atmosphère particulière.
Ah oui, mais comme je dis, moi, je suis acadien d'adoption, je le dis. Je ne suis pas acadien de naissance, non, mais j'ai vécu beaucoup, beaucoup de des moments très beaux de ma vie quand j'étais posté en Nouvelle-Écosse pour Radio-Canada. Puis je voyageais beaucoup hein, dans toutes les provinces atlantiques jusqu'à Terre-Neuve-Labrador. Mm-hmm. Alors j'en ai vu, j'en ai fait des fêtes et tout ça, mais voilà. Mais nous, on va parler de sport, tiens. Un plafond de verre qui se brise.
Oui. Et c'est Jen Paywall. Paywall, ça s'écrit P-A-W-O-L, qui a permis de briser ce plafond de verre. Je vais me baser, entre autres, sur un article de Michael Lalancette dans Le Soleil d'il y a deux jours, mardi dernier, le 12. Ça s'intitule « De l'espoir pour les femmes arbitres ». Ils nous disent « L'attente aura duré un peu plus de 120 ans ». Dans les ligues majeures de baseball, de nombreuses femmes du Québec et du Canada ont éprouvé une grande fierté en voyant l'Américaine Jen Paywall devenir la première femme à diriger un match de saison, un match donc qui compte en ligue majeure de baseball. Rappelons les faits. Paywall a 48 ans. Elle a écrit une page d'histoire du baseball en se dirigeant au premier et au troisième coussin samedi dans le cadre d'un programme double entre les Braves d'Atlanta et les Marlins de Miami. Donc, premier match, elle était l'arbitre au premier coussin. Donc, c'est l'arbitre qui voit beaucoup de monde passer dans une partie. Troisième coussin, c'est un peu plus tranquille quand même. Dimanche, par contre, c'est elle qui était postée au marbre pour le dernier match de cette série. Donc, c'est elle qui décidait des balles et des prises. Le plafond de verre éclate bien des années après que Violet Palmer a été la première femme à travailler comme arbitre dans un match de la NBA au basketball en 1997. On peut dire que c'est le siècle dernier, mais juste le bas. Et Sarah Thomas a eu sa chance comme arbitre dans la NFL en 2015, et elle est toujours arbitre dans la Ligue nationale de football. Je remarque, et j'ai vérifié, on ne parle pas de la Ligue nationale de hockey là-dedans. Il n'y a pas de femmes qui arbitrent dans la Ligue nationale de hockey présentement. Il y en a quelques-unes qui sont juges de ligne dans les ligues inférieures, mais pas encore dans la Ligue nationale de hockey. Fin de ma parenthèse. Geneviève Saint-Arnaud-Gaboury et Élise Lallemand, les deux premières arbitres à officier des parties régulières de la Ligue de baseball junior élite du Québec en 2015, donc c'est la ligue la plus élevée au Québec, n'étaient pas peu fières de voir la femme originaire du New Jersey passer à l'histoire. Surtout que les deux ont déjà eu la chance de la rencontrer lors d'un camp des arbitres du baseball majeur en Floride en 2019, juste avant la pandémie. Lorsque Paywall, dans un rôle de formatrice, avait vu débarquer les 8 femmes arbitres du Canada, elle s'était tout de suite précipitée vers elle. Elle était vraiment gentille avec nous, et quand on est reparti, elle nous a dit qu'elle souhaitait qu'on reste en contact, se souvient Geneviève Saint-Arnaud-Gaboury, qui agit régulièrement comme marqueuse lors des parties des capitales de Québec dans la Ligue frontière de baseball indépendant. Elle dit toujours « J'avais été impressionnée par son calme, mais elle avait une drive sur le terrain, poursuit-elle. Je ne l'ai pas du tout connue avec un caractère bouillant mais elle savait se faire respecter. Élise Lallemand, elle, conserve aussi des souvenirs impérissables de, comme sa consœur de Québec. Elle dit qu'elle avait été vraiment super généreuse de son temps. Je suis contente car elle a vraiment fait beaucoup d'efforts et de sacrifices pour s'y rendre. La présence de Jen Paywall dans les parties régulières du baseball majeur lance un message d'égalité très fort. Elle montre aussi que les choses ont beaucoup changé depuis l'époque où Pam Postma, dans les années 1980, ça fait quand même 80, ça fait 65 ans, non, ça fait 45 ans, pardon, de ça, avait été freinée au niveau 3. Au niveau 3, c'est le niveau juste en dessous des ligues majeures. Le plus haut, c'était le niveau le plus haut qui avait été atteint par une femme comme arbitre jusque-là. On a beaucoup moins à se battre en comparaison à l'époque où j'ai commencé, estime Geneviève Saint-Arnaud-Gaboury. Avant, il fallait toujours en faire plus que les hommes pour continuer d'améliorer son sort, alors que maintenant, les choses suivent leur cours en faisant notre travail. Elle dit toujours, quand on embarque sur le terrain, les hommes ne sont plus surpris de nous voir arriver. Comme le baseball féminin est en santé, les choses continuent de s'améliorer. Lors des présents Jeux du Canada à Terre-Neuve et Labrador, une équipe complète de femmes arbitres a été formée pour encadrer les parties en baseball féminin. Une nouvelle ligue féminine à 6 équipes, la Women Professional Baseball League, qui devrait voir le jour l'an prochain, en 2026, devrait aussi permettre d'ouvrir quelques portes aux jeunes passionnés de baseball. Les occasions sont là, mais la visibilité de ces sports est essentielle pour avancer encore plus vite. Élise Lallemand cite en exemple la finale de la dernière Coupe du monde féminine de baseball entre le Japon et les États-Unis à Thunder Bay, lors de laquelle elle travaillait comme arbitre au deuxième but. Cette partie avait été diffusée sur les plateformes web de la Ligue majeure du baseball et toute la couverture médiatique des débuts de Jen Paywall le week-end dernier. D'ailleurs, si vous voulez voir des images, vous pouvez aller voir sur YouTube. Il y a plusieurs images de cette situation. Impliquée dans le programme de haut niveau, la structure gérée par Baseball Québec visant à offrir un encadrement spécifique aux joueurs et joueuses ayant un potentiel de performance élevé, Geneviève Saint-Arnaud-Gaboury est chargée de superviser les jeunes arbitres en développement dans la région. Installée au troisième coussin lors de la même finale de la Coupe du monde de 2024, Mme Saint-Arnaud-Gaboury ne saurait dire si les jeunes femmes arbitres se feront plus nombreuses dans les prochaines années. Mais elle demeure convaincue que du travail reste encore à faire pour les convaincre de choisir ce métier ingrat et difficile. Les filles sont quand même gênées de venir s'essayer. Il faut les pousser pour les convaincre. On voit des gars à 12 ans comme arbitres alors que les filles viennent plus tard, rarement avant l'âge de 14 ou 15 ans, dit celle qui aimerait bien voir son ancienne collègue Tania Millette continuer de gravir les échelons. Cette dernière, la première Québécoise à diriger une partie de baseball professionnel, travaille au niveau A cette saison, donc c'est un niveau mineur par rapport à la Ligue de baseball majeure. Et je termine cette intervention. Merci ma tablette.
Ça nous joue des tours parfois la technologie, hein?
Oui. Alors, c'est un article que j'ai trouvé dans la presse du 9 août, donc tout dernièrement, qui raconte un peu la journée de Jen Paywall quand elle a arbitré sa première partie. Il me reste 2 minutes, donc elle a ressenti l'amour et le soutien des partisans, de sa famille, de ses pairs, des joueurs, lorsqu'elle a marqué l'histoire en devenant la première femme à arbitrer un match de saison régulière. Elle dit... C'est incroyable. Quand nous sommes entrés sur le terrain, on aurait dit que beaucoup de gens m'applaudissaient et scandaient mon nom. C'est assez intense et émouvant. Et le gérant des Braves d'Atlanta, Brian Snicker, lui a dit qu'elle a fait du bon travail. On voit bien qu'elle sait ce qu'elle fait. Et j'ai trouvé cette phrase un peu paternaliste. Ça, c'est fin de une autre parenthèse. Paywall a raconté qu'elle était accompagnée d'une trentaine d'amis et de membres de sa famille, dont son père, lors du match, et qu'elle a immédiatement perçu la différence majeure de travailler dans un stade des ligues majeures. Parce que là, un stade des ligues majeures, c'est gros. Alors, pour voir des visages familiers dans le stade, c'est pas si facile que ça que quand on travaille dans un stade plus petit. Alors, elle dit, quand j'ai regardé, il n'était pas dans les gradins comme dans les ligues mineures. Quand j'ai regardé, ça m'a pris un moment. Ils étaient dans les hauteurs. Je n'oublierai jamais ça. C'était tout simplement génial. Elle termine en disant, mon rêve est devenu réalité aujourd'hui. Je le vis encore. Je suis tellement reconnaissante envers ma famille et le baseball majeur d'avoir créé un environnement de travail aussi incroyable. Je suis tellement reconnaissante.
Eh bien, Yvan, tu nous amènes à la fin de cette première demi-heure de l'émission. Merci beaucoup pour cette collaboration hyper intéressante. On se revoit la semaine prochaine.
À bientôt.
À bientôt. Bye. Après la pause, on parle d'Acadie.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Et on entendait Grand Dérangement, Je reviens au berceau de l'Acadie.
Alors, c'est définitivement ma chanson préférée du 15 août. Je l'avoue, j'adore Grand Dérangement, j'adore cette chanson. Et j'adore, là, je vais vous le dire, j'adore la personne que j'invite à cette émission chaque année pour me parler de l'Acadie. Pourquoi? Parce que c'est une conteuse acadienne. Et le 15 août, c'est demain, c'est la grande fête de l'Acadie. C'est un moment fort en émotion, en festivité. Puis Anne Godin, moi, je l'ai connue, on était tous les deux à Radio-Canada. Elle est animatrice à la radio à Moncton. J'étais basé à Halifax. On se voyait régulièrement. J'ai même fait des entrevues avec elle. Et un peu comme moi, elle est arrivée à un âge certain. C'était son anniversaire hier. Puis bon, on lui souhaite bonne fête. Et maintenant, elle se spécialise dans la culture acadienne. Elle la connaît tellement, cette culture. Elle la raconte et elle en fait la cuisine. Anne Godin, comment ça va?
Ben, ça va bien. Et toi?
Oui, ça va bien. Et on se parle une fois par année. Ça n'a plus de bon sens. Alors là, je te le promets, on va se parler autrement que juste autour du 15 août. Une conteuse acadienne. Là, je sais, on connaît Fred Pellerin ici, qui est un conteur québécois, mais une conteuse acadienne, ça mange quoi en hiver, comme dirait l'autre?
Ben, c'est un petit peu comme Fred Pellerin que j'ai déjà rencontré. Ça compte des histoires. Tu sais, parce qu'en Acadie, on avait une tradition de conteurs. Autrefois, moi, mon grand-père, c'est un conteur, puis ma grand-mère aussi, c'est une conteuse. Donc, il y avait une tradition, les conteurs, les conteuses se promenaient de village en village, rassemblaient le monde dans les cuisines, puis là, ils contaient des histoires, puis ils ramassaient aussi des histoires en se promenant comme ça. Mais c'est une tradition qui a vraiment qui a diminué. Quand la télévision est apparue, ben là, les conteurs ont un petit peu disparu. Puis moi, je trouve ça vraiment dommage parce que c'est une très, très belle tradition. Et on a tellement de belles légendes ici en Acadie. Alors, moi, j'ai toujours été passionnée par le conte, par les légendes. Et j'ai décidé de faire ça. J'ai dit, après ma retraite en 2018, je vais devenir conteuse. Et j'ai été chanceuse parce que j'ai eu une mentor. Pour devenir conteur, il faut qu'il soit mentoré. Et moi, c'est la fameuse conteuse que tu connais sûrement, Clara Dugas.
Ben oui.
Qui est ma mentor.
Ah, bravo.
Oui, c'est elle qui m'a tout appris. J'ai ensuite suivi des formations. Je suis allée faire de la recherche au Centre d'études acadiennes. J'ai construit tout mon répertoire de contes et légendes. Et je me promène un petit peu partout, puis je raconte.
Ah bien, tu racontes. Ben, c'est ce qu'il faut faire. Ben justement, là, on va raconter l'histoire du 15 août. Alors, depuis quand on célèbre cette fête nationale le 15 août? Comment c'est arrivé?
Bien, c'est arrivé lors de la première grande convention des Acadiens. C'est que les Acadiens, à un moment donné, ont eu le besoin de se réunir, puis d'établir des symboles, hein, parce qu'un peuple a besoin de symboles. Alors ça s'est produit à Memramcook, le berceau, on appelle ça Memramcook, le berceau de l'Acadie, avec le collège, et c'était en 1881. Alors, l'élite acadienne était là, puis là, ils ont dit, ça nous prend une fête nationale. Et il y a des gens qui disaient, oui, mais il y a la fête du 24 juin, c'est la fête des Canadiens français. Oui, c'est notre fête aussi. Mais il y a un groupe d'Acadiens qui ont dit, on est un peuple distinct, on a vécu des choses terribles, on a dû se battre. Et pour nous, Notre-Dame de l'Assomption, ben, c'est la patronne hein, des Acadiens.
Tout à fait.
Notre-Dame de l'Assomption. Donc, la fête de Notre-Dame de l'Assomption, c'est le 15 août. Fait qu'on a décidé de choisir cette date-là. Et c'est comme ça que c'est apparu à partir de 1881. Puis là, à partir de ce temps-là, ben, tous les 15 août ont été fêtés avec toutes sortes de symboles. Et le drapeau, lui, est apparu plus tard, à la deuxième convention en 1884. C'était à Miscouche, à l'Île-du-Prince-Édouard. Il fallait un drapeau, il fallait quelque chose qui nous distingue. Donc, on a pris le drapeau français, le bleu, blanc, rouge, mais on a mis l'étoile jaune, qui représente la Stella Maris, qui est l'étoile qui guide le peuple acadien vers une renaissance, si on veut. C'est... Donc, c'est des symboles très forts qui ont aidé le peuple. Et aujourd'hui, là, si vous promenez en Acadie, vous voyez des drapeaux bleu, blanc, rouge, l'étoile jaune, là, les couleurs, le monde se costume, des chapeaux, des chandails, il y a des drapeaux partout. et même dans certaines régions du Québec, parce qu'il y a eu, il y a des régions acadiennes au Québec, comme à Bécancour, où je suis allée compter déjà, sur la côte nord, dans le coin de Natashquan, la région de Lanaudière. Il y a même un festival acadien, la Saint-Ligoury, dans Lanaudière. Je suis allée deux fois, là. Donc là aussi, c'est tout décoré, là, des couleurs de l'Acadie.
Oui, puis je voulais juste mentionner qu'au Québec, on compte au moins 1 million de descendants acadiens qui vivent ici.
Ah,
là,
ben oui, tout à fait.
C'est beaucoup de monde, ça.
Là, peut-être. Il y en a peut-être qui ont du sang acadien, là.
Ils s'en rendent pas compte. Tintamarre. Alors, aujourd'hui, ça va être... Oui, pas aujourd'hui, demain, il y aura le grand Tintamarre. Pourquoi on fait ça?
Ben, le Tintamarre, ça vient d'une coutume acadienne, autrefois, qui s'appelait un charivari. Puis ça, ça nous vient de nos ancêtres du Poitou. Hein. Les Acadiens viennent du Poitou, principalement, tandis que les Québécois sont plutôt de la Normandie, du nord de la France. Alors, les charivaris, quand, par exemple, quelqu'un se mariait et qu'on n'invitait pas toute la parenté n'était pas contente. Alors, la nuit de noces, là, le jeune couple, là, ben, on allait à la fenêtre du jeune couple, puis on faisait du bruit, on frappait dans des casseroles, on criait, puis on appelait ça un charivari.
Ouais, ça contribue pas trop à la reproduction de la population acadienne.
Le charivari s'est transformé en tintamarre. Les premiers tintamarres sont apparus à Caraquet, au Festival acadien, qui est un des plus anciens, avec celui de la région de Clare, en Nouvelle-Écosse. Et c'est là qu'on s'est dit, faut qu'on fasse du bruit pour montrer qu'on existe, qu'on est là. Et c'est là qu'a commencé la tradition du tintamarre, c'était dans les années 60. Ça a toujours grossi. C'est qu'aujourd'hui, là, il y a des tintamarres partout, tous les petits villages, les villes. C'est sûr que celui de Caraquet est mémorable. Ouais. Caraquet, ça peut être 20 000 personnes dans une rue, là. C'est quelque chose à voir. Mais il y en a vraiment. Moncton a son tintamarre. Fredericton, maintenant, ont un tintamarre. Ça n'a pas été facile d'avoir un tintamarre à Fredericton à cause des anglophones, surtout les anglophones du corps.
Oui, le Confederation of Regions, oui.
C'est ça. Ensuite, Saint-Jean, enfin, dans toutes les villes où il y a des Acadiens, maintenant, il y a des tintamarres.
Alors, je pense qu'il faut rappeler hein, que les Acadiens, c'est un peuple qui a été... c'est un des premiers génocides documentés du monde, bien que quand j'utilise ce mot-là, des fois, je me fais un peu rabrouer, mais c'est quand même un génocide.
C'est un génocide. C'est carrément un génocide.
On a pris des gens, on les a mis sur des bateaux, il y en a plusieurs qui sont morts, on les a déportés. Oui. C'est un peuple qui existe, mais qui n'a pas de pays. C'est un peuple, je dis souvent un peuple virtuel, mais c'est un peuple qui vit dans ses traditions. Et là, et dans ses comptes, mais je regarde toujours comment les choses se passent maintenant. C'est quoi l'avenir? Comment on peut envisager l'avenir là, dans le monde actuel pour les peuples acadiens? Parce que vous êtes plusieurs peuples, en fait.
Oui. Ben moi, je pense que si la fierté est là, je pense que ça va survivre. Mais il faut absolument transmettre. Et c'est un petit peu pour ça qu'à la retraite en 2018, j'ai décidé de m'investir dans la cuisine parce que j'ai un livre de cuisine qui s'appelle Saveurs d'Acadie. Oui. Je donne des ateliers de cuisine dans les écoles. Je montre aux jeunes à faire du fricot, des crêpes à la rampure. À Caraquet, il y a 3 jours passés, j'ai fait une démonstration de crème de morue à la crème. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. C'est que faut continuer les traditions. Puis les contes, c'est la même chose. J'ai un atelier de contes que j'ai conçu pour les élèves dans les écoles. À partir du mois de septembre, je vais aller dans les écoles. Puis c'est un peu pour leur inculquer cette fierté de qui ils sont, d'être acadiens, puis de continuer nos traditions, que ce soit culinaire, que ce soit dans la musique, que ce soit dans tout ça. Mais tu sais, on a quand même des bons ambassadeurs. Moi, je pense à Lisa Leblanc, là, qui est une merveilleuse ambassadrice, là, que les gens adorent, autant au Québec qu'en France qu'ici. Puis elle aussi, là, Lisa, c'est quelqu'un qui a, je la connais bien, là, elle a à cœur de transmettre l'acadianité, si on veut. Tu sais, on a encore des Edith Butler qui continue de chanter sur scène. Il y a Sal Barbe, là, qui fait un tabac, là, au Québec, partout, tu sais, qui est un groupe acadien.
Puis il y a Petit Béliveau, là, que j'aime beaucoup, moi, que j'entends souvent,
Petit Béliveau, je l'adore, tu sais, le Petit Béliveau, Marc Apolladio de la Nouvelle-Écosse, mon oncle Jason aussi, qui marche, là, qui s'en va faire une tournée au Québec. C'est tous ces gens-là, là, ça participe à continuer à avoir cette fierté de qui on est, puis de ne pas oublier non plus. Tu vois, comme hier, par exemple, pas hier, avant-hier, j'ai fait visiter un groupe d'anglophones, des fonctionnaires provinciaux anglophones, mais qui apprennent le français. Les anglophones, ils sont ouverts. Et eux, là, ils savaient rien de ce qui s'est passé durant la déportation et le génocide acadien. Mais moi, je leur ai fait visiter le musée, je leur ai montré, et j'ai pas ménagé mes mots. J'ai dit, de 1755 à 1763, les anglophones ont chassé, pourchassé, tué, déporté, séparé des familles, et ils ne savaient pas. Il y en a un qui avait les larmes aux yeux, il dit, je peux pas croire que ça s'est passé, mais on n'était pas au courant. Parce que c'est une histoire qui a été un peu cachée. Ça n'a jamais été dans les livres d'histoire, c'est pas... il faut la raconter, l'histoire. Il faut pas avoir peur de la raconter.
Il faut la raconter de notre point de vue, non seulement du point de vue du conquérant. Oui. Anne, on est rendu au bout de notre temps d'antenne. Je voulais te remercier. Puis, là, tu vas me permettre. S'il fait frette un peu, tu feras une froque sur ton échine.
Ah, bon! C'est bon, tu connais bien des mots.
J'en ai appris quelques-uns, puis je me suis fait un plaisir de retenir cela pour toi. Je t'adore, Anne. On se reparle très bientôt. Passe une belle fête nationale de l'Acadie.
Et bonne fête de l'Acadie à tout le monde. Partout où il y a un Acadien, il y a de l'Acadie. Merci, Martin.
Bye bye.
Merci. Bye bye.
Yo, j'ai de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Y'a de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Un jacuzzi, plein de clowns, c'est le festival. Un jacuzzi extra large, on fait des fesses de cheval. Ma jacuzzi baigne-toi, submarine wash-toi. GPS sous l'eau, les nouveaux jacuzzi. On boit du homemade wine, des grosses bouteilles. Ta jacuzzi, believe you me, pas pareil. Je prends des one-way cruise. Y'a de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous aller dans mon jacuzzi? J'ai de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Si tu vois ça que j'ai vu dans mon jacuzzi, t'es mon épée des UFO dans mon jacuzzi. Y'a des protestes pour des fous dans mon jacuzzi. Y'a des blancs pis des adjacks qui se battent dans mon jacuzzi. Ah, je porte une goose fur coat dans ma jacuzzi. Ma vie a changé depuis que j'ai une jacuzzi. Ah, je mange des onion rings dans ma jacuzzi. Chaque jour c'est Noël pis je paye pour un tax. J'ai une goose jacuzzi juste comme dans les movies. Mes choppers je suis cool pis les femmes aiment mon sang. Allez goose pis pleine d'eau comme les femmes que j'ai. Ma jacuzzi est trop mille fois plus goose la chair. Y'a de la place en masse dans mon jacuzzi. Dans mon jacuzzi, écoute la musique qui joue, c'est mon propre CD. Et c'est Tony 7, elle s'appelle jacuzzi. Surfing turf, un jacuzzi, le monde surf. Envoyé de 9 à 5, d'autres qui fait le snap. Oh, je te dis, dans mon jacuzzi, la vie est simple. Je vends les condos qui veulent tout ma jacuzzi. Prends le touristique que je fais pour ma jacuzzi. 2 millions de touristes, man, pour ma jacuzzi. Private jet landing strip pour ma jacuzzi. Ça prend une autre planète pour ma jacuzzi. Tout le monde se fait mettre dans ma jacuzzi. Ça prend une autre planète pour ma jacuzzi. J'ai une grosse jacuzzi, juste comme dans les movies. Mes choppers, je suis cool, pis les femmes aiment mon sang. Allez, grosse, pis pleine d'eau, comme les femmes que j'aime. Ma jacuzzi est trop mille fois plus grosse que la chaîne. Y'a de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous aller dans mon jacuzzi? J'ai de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Tu peux voir ma jacuzzi de la Deep Space Nine. Allez, grosse, gas power, pis le moteur pousse. Assis sur mon tronc avec mes chaînes cell phone. J'ai des calls qui me réveillent à cause y'a 7 time zone. Easy breezy, beautiful jacuzzi. Beautiful jacuzzi, beautiful jacuzzi. Peace and love. J'ai de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Y'a de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi?
C'était Radio Radio Jacuzzi.
Alors, originaire de la Baie-Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse et de Moncton au Nouveau-Brunswick, c'est une chanson qu'on entend en shack. Alors, je vais... Le shack, parfois, il y a des petits mots anglais. Alors, je vais vous en faire un petit bout ici. Tu reviendras back me where à round 6. Hein? Tu reviendras me voir autour de 6 heures. Puis tantôt, j'ai dit à Anne, s'il fait frais, tu fourres ta froc sous ton échine. Ce qui veut dire que si tu as froid, tu te mets un manteau sur le dos. Et c'est, en fait, pour ta froc sur ton échine, c'est vraiment du beau vieux français qui a été adapté et qui se parle dans la ville Sainte-Marie. Bon, on retourne plus près de chez nous à Coucher dehors. C'est une levée de rideau sur l'itinérance. C'est un spectacle qui est de retour pour une deuxième édition, un spectacle immersif. Ça va avoir lieu le 24 août prochain. Imaginé par l'artiste trifluvien Janou Bournival, ce spectacle invite les spectateurs à se mettre dans la peau d'une personne en situation d'itinérance, en assistant à la représentation depuis l'extérieur sur les berges du fleuve. Alors, après un succès retentissant de sa première édition, bien, ce projet revient sous la thématique « Levée de liens » pour explorer des histoires de ces ruptures sociales et familiales qui peuvent mener à la rue. Alors, on reçoit Janou Bournival. Bienvenue à l'émission.
Bonjour, David Martin.
David Martin?
C'est quoi ton nom, donc?
Denis Martin, c'est correct. Denis, je pensais que c'est moi qui t'ai trompé de nom. Ça peut arriver des fois que les choses... Moi, mon âge...
C'est la première fois qu'on se parle, nous autres, hein?
Oui, c'est la première fois qu'on se parle. C'est pas grave. C'est Denis Martin et je parle à Janou Bournival.
Parce que je t'écoutais présenter le spectacle, je me disais, ça va prendre des méchantes bonnes questions pour que j'aie de quoi d'autre à dire. Parce
justement, on y arrive. On y arrive. Parfait. Oui, alors Janou Bournival, qui est l'idéateur et porteur du projet. Janou, pourquoi l'itinérance comme sujet de spectacle?
Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, tu sais, dans ma vie, j'ai déjà vécu quelques épreuves, puis je me suis rendu compte avec le temps que, tu sais, tout le monde a des passés proches, puis moi, ce qui m'a permis de me garder dans une belle position, c'est les liens, c'est les gens qui sont autour de moi, c'est mon filet social. Puis à un moment donné, je me suis retrouvé, puis une couple d'années, je sais pas si tu connais le festival Noël dans le parc à Montréal.
Oui.
Je donnais un coup de main à un ami au jour de l'an là-bas. Puis ça, c'est une année où est-ce qu'il avait mouillé à Sio, le 3-4 ans au jour de l'an, il mouillait. Puis il n'y avait personne, il n'y avait pas de public, en fait. Il y avait juste des gens de la rue qui assistaient au spectacle. Fait que là, moi, j'ai sauté le jour de l'an avec des gens de la rue qui étaient d'une gentillesse extraordinaire, puis qui étaient inclusifs et, je dirais, bienveillants à mon égard. Puis il y en a un qui m'a offert... moi, j'ai arrêté de boire, enfin, je n'ai pas pris, mais il m'a offert un petit flacon, voir si j'avais besoin d'une gorgée pour me réchauffer. L'autre, il dit, viens danser avec moi, on va se réchauffer parce que notre sleeping va être mouillé à soir. Tu sais, puis je les ai trouvés bien extraordinaires, à la différence que moi, je rentrais à l'hôtel le soir.
Mm-hmm. Ouais, c'est ça.
Que, je me suis demandé après ça, qu'est-ce que je pouvais donner dans mon quotidien, qu'est-ce que je pouvais faire pour ouvrir à la sensibilisation, parce que finalement, souvent, on ne sait pas comment agir avec une personne en situation de rue. Fait qu'on l'évite du regard et on continue notre chemin.
Tout à fait. C'est comme ça. C'est beaucoup comme ça qu'on le vit ici à Montréal. Janou, quand je t'ai posé la question, oui, je suis curieux de savoir, toi, qu'est-ce que tu as vécu et qui t'a mené à parler de ça?
Ben, tu sais, un paquet d'épreuves, tu sais, comme par exemple, dans ma jeune enfance, on vivait très pauvrement. Fait que là, tu sais, je portais les vêtements usés que mon frère, ma soeur avaient portés. J'étais dans la première génération des familles monoparentales. Je devais être d'un seul à mon école. Je faisais une carte de la fête des pères que je connaissais pas. Puis, je vivais de l'intimidation à bien des niveaux. J'avais trouvé ça difficile jusqu'à ce que je déménage dans le village que j'habite encore aujourd'hui, qui est Saint-Élie-de-Caxton. C'est drôle parce que quand je suis arrivé là, on faisait tout dur, on était tous mal habillés. Tu sais, c'est un village très, très normal. Fait que tout d'un coup, j'étais vraiment dans l'eau, puis on m'a accueilli, puis on m'a supporté dans n'importe quelle idée d'enfance, puis projet. J'étais entouré d'amis tout d'un coup. Fait que j'ai compris la nécessité du lien à ce moment-là. Malgré la petite enfance. Et après ça, ben évidemment, c'est différentes épreuves de rupture, des fois. Des fois, ce qui mène à l'itinérance, c'est des ruptures. Ça peut être une rupture amoureuse, une rupture dans le travail, ça peut être une rupture sociale. Puis à un moment donné, j'ai vécu des grosses déceptions par rapport à la vie qui m'ont amené des fois à frôler la toxicomanie. Puis finalement, ben, c'est un ami qui est venu vers moi pour m'aider, puis hop, ça m'a ramené. T'sais. Fait que c'est comme un paquet d'épreuves comme ça. Puis ce qui est fou, c'est que je suis assez certain que si on fait le tour de nos vies, tous et chacun, tu sais, on va se rendre compte qu'on a tout à peu près vécu, été à 2-3 pas là, de perdre notre trajectoire souhaitée.
Il y a des choses que je disais qu'on est parfois à un chèque de paye de se retrouver à la rue, à une rupture, à un verre de bière, à une consommation de drogue. De se retrouver à la rue. C'est pas. Je pense que tout le monde pourrait se retrouver là un jour ou l'autre. Puis je me demande parfois si c'est pas ça qui fait peur et que les gens détournent le visage.
Ben, c'est ça qui est fou. Après ça, je pense qu'il y a beaucoup de... Ben, tu sais, quand on l'assume pas tout à fait, je pense que c'est là qu'on tourne la tête. Je sais pas si tu comprends, dans le sens où si tu te dis « je veux pas le savoir », ben tu regardes pas la personne puis tu ignores l'existence de cette personne-là. Donc, tu ignores ta propre précarité. C'est là que ça devient le danger parce que, comme tu dis, on est tous en chèque de paye de l'échapper, mais avec le coût de la vie qui a augmenté beaucoup aujourd'hui, à l'épicerie, là, on n'achète pas 12 des cannes de jus, là. Ça l'a augmenté d'un coup sec. Il peut arriver un pépin, puis un coup, tu as glissé, puis tu es rendu dans la rue, revenir dans la société, c'est terrible, c'est un effort magistral. Il faut prendre soin. Ce qui est intéressant, c'est que si on accepte de se regarder les uns les autres, d'accepter que la personne qui est là, on peut la regarder sans jugement, puis déjà juste lui souhaiter bonne journée, là. Ben, cette personne-là, si elle est rendue à l'effort, tu sais, quand tu habites dans la rue, moi, j'en ai croisé un paquet, là, on a fait beaucoup d'entrevues, j'ai fait beaucoup de rencontres. Puis, par exemple, l'autre jour, je croisais un gars qui s'appelle Paul, puis lui, il attendait un chèque, puis là, ce jour-là, il s'est trouvé une place pour habiter. Il avait réussi à régulariser sa situation. Mais, tu sais, dans les semaines précédentes, tu dors une petite semaine dans une tente à quelque part entre deux buildings. Après ça, tu dors ici et là. Tu te demandes comment conserver ta nourriture quand tu réussis à t'en trouver. Fait que là, tu galères tout le temps. Il a réussi à travers sa vie de galère à se rendre jusqu'au but. Puis le matin, il allait pour chercher son chèque. Puis le gouvernement avait appelé à son ancienne adresse. Fait que ils ont fermé son dossier, puis il a pas eu son chèque, fait qu'il a pas eu son nouvel appartement qu'il a eu. Fait qu'il retombe dans la galère pour réussir à comment je vais conserver mes aliments, comment je vais gérer mon affaire, comment. Tu sais, l'itinérance, c'est pas toujours quelqu'un sur le coin d'une rue.
Non. Écoute, parce que là, je me rends compte qu'il ne reste pas beaucoup de temps à cette demi-heure, puis j'aimerais quand même que ça, ce genre d'histoire-là, on les retrouve dans ton spectacle.
Oui, bien sûr, parce que moi, j'ai fait beaucoup de rencontres, puis les gens participent, sont rémunérés pour participer au spectacle. Moi, j'aurais souhaité mon premier flash quand j'ai initié le projet, c'était de les amener avec moi sur scène. Puis on m'a fait comprendre que des fois, il y a bien des artistes qui ont des fois ont du mal à gérer l'anxiété. Là. Fait que des fois, quand on croise la maladie mentale ou qu'on croise des fois la dépression, les difficultés, ça amène là. Puis on veut éviter d'amener vers la surconsommation. Qui fait que on les amène en vidéo, on les amène en poème, on retrouve des artistes bien établis qui vont lire un poème écrit par quelqu'un dans le milieu d'une ruelle, ou terminer une chanson de quelqu'un qui l'a fait dans la rue, ou les gens de la rue nous à travers des entrevues nous permettent de comprendre des choses. Comme l'année dernière, il y avait Nounours, qui est un homme extraordinaire qui lui s'est fait battre de 0 à 18 ans par son père, puis au moment où lui a défendu sa mère contre la violence, il s'est retrouvé en prison. Il était abandonné par sa famille. Puis après ça, de fil en aiguille, à un moment, il voulait s'enlever la vie. Puis c'est un chien qui a sauvé la vie. Fait que lui, le chien est venu se coller sur lui au moment où il voulait s'enlever la vie.
Puis ça l'a sauvé. Chien,
il avait faim, il était malade, il a pris soin du chien.
Oui, puis on va devoir arrêter ici. Il me reste 15 secondes, je pense. Vraiment, c'est tellement intéressant. Ah! Je pense que j'aurais passé encore plus de temps. Je vais rappeler donc que ça s'appelle Coucher dehors. Ça se passe à Trois-Rivières, au théâtre, à l'amphithéâtre Cogeco. Je viens de parler avec Jeannot Bournival. Vraiment, on a hâte de voir ça 24 août prochain. Merci. Merci.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis-Martin Chabot.
Un jour à la fois. Yeah.
m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois.
Écoutez, Annie Blanchard, un jour à la fois.
Un beau twang, là, ça fait du bien de temps en temps d'entendre ça. Je ne suis pas toujours amateur de musique country, mais c'est le fun d'entendre ça de temps en temps. Je voulais vous dire, j'ai vraiment aimé mon entrevue avec Jeannot Bournival et je viens de demander à son agente si on ne peut pas le revoir la semaine prochaine parce qu'on a manqué un petit peu de temps. J'aurais aimé qu'on explore beaucoup de choses avec lui puis on verra. Cela dit, on s'en va au Brésil. Au Brésil, imaginez-vous, pour aller rejoindre notre chroniqueur sportif en parasport, Dominique Tremblay. Dominique, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui?
Ça va très bien, mais qu'est-ce que vous faites là au Brésil?
Ben, c'est la Coupe du monde de World Boccia qui se déroule à Curitiba, une ville au sud du Brésil. Je lisais les nouvelles sur mon ordinateur là, du Québec. Il avait l'air à faire chaud au Québec depuis mon départ. C'est toujours le cas?
Ça s'est refroidi un petit peu. Alors, vous avez rien manqué. C'est beaucoup mieux que la chaleur était insupportable.
Ben moi, je vous dirais qu'au Brésil, vu que c'est dans l'hémisphère sud, c'est l'hiver. Hein? Et il fait quand même un peu froid. Il y a des températures entre 7 et 20 degrés. Ah. C'est sûr que certaines personnes auraient préféré ce genre de température-là ce qu'on a vécu au Québec au cours des derniers jours.
À la canicule, c'est épouvantable. Alors, donc, oui. On est là pour parler de sport.
C'est ça, de boccia. Donc, après le petit tour météo, c'est l'équipe canadienne est représentée par 4 athlètes dans différentes catégories. Malheureusement, ça ne s'est pas super bien déroulé pour eux. Il reste seulement Alexandre Lemaire qui va jouer son dernier match du tournoi à la ronde et qui, s'il remporte le match, pourrait se classer. C'est pour les demi-finales. La compétition regroupe à peu près 70 athlètes de 16 pays. Pour le Canada, ça sert de préparation pour les championnats des Amériques qui va avoir lieu là, dans quelques semaines en Colombie. Et si le Canada fait bien lors de cette compétition, les athlètes se qualifieront pour les championnats du monde qui auront lieu en 2026 en Corée.
Ouais, puis moi, je le dis tout de suite, là, quand c'est le sport, je ne suis pas neutre. Je prends pour nos équipes. On est bon, hein?
On n'est quand même pas si pire là, au boccia. Il y a certains athlètes, les meilleurs joueurs canadiens de boccia sont restés plutôt à Montréal pour se reposer, pour être prêts pour la compétition en Colombie dans quelques semaines. On parle d'Alison Levine, et Julian Chiabanou, mais on devrait attendre de bons résultats là, lors des championnats des Amériques en Colombie.
Bon, alors, est-ce qu'on reste en Amérique du Sud puis on s'en va en Colombie peut-être?
Ben oui, mais je parlais que l'équipe de boccia va être en Colombie, mais là, c'est les équipes de basketball en fauteuil roulant qui sont en Colombie. L'équipe féminine, d'abord, joue présentement la Coupe des Amériques. Ça sert de qualification pour les championnats du monde. Le Canada a perdu son premier match contre le Brésil lors du tournoi à la ronde. Ont remporté les deux matchs suivants assez facilement. Donc, ils vont rencontrer les champions paralympiques, les États-Unis, en demi-finale. Ça risque d'être très difficile, mais quand même, seulement le Canada sera hôte des championnats du monde en 2026 à Ottawa. Donc, c'est plus un tournoi de préparation, puisque l'équipe hôte est qualifiée automatiquement. La Coupe des Amériques masculine, elle aussi, va avoir lieu en Colombie, mais les athlètes vont arriver en fin de semaine et ça sera la compétition débutera lundi, toujours en Colombie. Et on attend encore des bons résultats de l'équipe canadienne.
Juste par curiosité, si les gens veulent voir un peu ce qui se passe, est-ce que ces compétitions-là seront ou sont disponibles quelque part en ligne ou il faut vraiment attendre?
Oui. Les compétitions ont lieu sur les chaînes YouTube, soit de la Fédération internationale de basketball en fauteuil roulant. Donc, il y a des liens si on cherche un petit peu là, pour voir ces matchs-là sur YouTube, sur leur chaîne YouTube. Donc, si ça vous intéresse, c'est des sports qui sont assez intéressants à regarder.
Ben, la boccia, moi, j'avoue que c'est quelque chose que j'ai pris goût, là, grâce à vous. Je ne connaissais pas ça avant. Oui. Ça aussi, là, les compétitions qui se passent présentement au Brésil, on peut les voir quelque part sur YouTube?
Oui, c'est ça. C'est sur la chaîne YouTube de la Fédération Haute du Brésil. C'est N-D-A-N-D-E. Donc, si on recherche ça sur YouTube, on devrait trouver leur chaîne, et on pourrait regarder les matchs. C'est très passionnant. C'est un peu comme la pétanque, puis il faut lancer les balles le plus proche possible d'un cochonnet, et les matchs sont très, très serrés, là. Il y a vraiment de la belle compétition.
Ouais, je me suis promis quand ça sera disponible, parce qu'on le fait de temps en temps pour les personnes qui ne sont pas en fauteuil roulant, ben, il y a moyen d'essayer, puis je vais le faire très bientôt, parce que j'ai vu que ça se faisait, puis je vais voir si je suis bon dans ce sport-là. Moi qui est bon dans aucun sport, on verra bien.
On vous invitera la prochaine fois d'une compétition québécoise.
Excellent. Et je vais terminer avec les Jeux du Canada qui se déroulent à Saint-Jean-Terre-Neuve.
Oui, c'est ça. Donc, les Jeux ont commencé vendredi dernier. Ils vont se terminer la fin de semaine prochaine à Terre-Neuve-Labrador. Les Jeux du Canada, c'est l'exemple de l'inclusion des sports paralympiques. On retrouve des athlètes paralympiques qui s'illustrent lors des Jeux du Canada depuis 30 ans, depuis 1995. Donc, des athlètes qui sont illustrés tant aux Jeux paralympiques, ont passé par les Jeux du Canada. On parle de Élodie Tessier en basketball féminin, a participé avec l'équipe du Québec à deux Jeux du Canada. Il y a aussi Brent Lakatos qui a remporté plusieurs médailles en athlétisme depuis les Jeux là, d'Athènes. Donc, ça fait un petit bout de temps qu'il roule sa bosse dans le parasport. Et lui a participé aussi à deux Jeux du Canada, mais en basketball, en fauteuil roulant cette fois-ci. Donc, c'est une belle, belle expérience pour les athlètes pour préparer pour les Jeux olympiques ou les Jeux paralympiques. C'est un rite de passage. C'est une grosse compétition qui regroupe des athlètes de partout au Canada. On parle de 10 provinces et les 3 territoires. Donc, c'est toute une compétition. Puis c'est un petit peu les Jeux olympiques là, du Canada. Donc, c'est une belle préparation pour les athlètes du futur. Et je leur souhaite bonne chance jusqu'à dimanche prochain. On voit des compétitions paralympiques et aussi en olympiques spéciaux là, pour les athlètes avec une déficience intellectuelle, soit en natation, soit en athlétisme et aussi pour la première fois en paracyclisme aux Jeux d'été.
Wow, c'est bien intéressant tout ça. Ben, on a bien hâte d'en reparler. Puis entre-temps, ben, on va vous souhaiter un beau séjour au Brésil.
Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir.
À la semaine prochaine.
I don't wanna do be comfy. Alvarez de Damoli. Where the world cannot hurt me. Oh,
I'm just a little sleepyhead. And you know, girl, I'm only that negligee quand t'as trouvé ta réponse. Le spirit à tous les jours, c'est rester comfy. Je veux chiller dans mon lit, manger des cochonneries. Check-moi dans un fucking gala avec mon hoodie. Ça sent le fouki. Ah, c'est pas mon phone, je suis dans ma tombe. Dans mon head, I get comfy home alone. Dans les PJs, video games. Do my jump, suck to be cruel, que je suis lame. Tire first, pay me deep, and my door. Pour une chance que je sors, je suis juste que je suis pas stressé. Si ça, il se passe à fort. Do me busy, baby, side three. Ça fait pas de tort, c'est pas mettre des sourires. Oh, je te le dis, la vie, c'est plein sport. Baby, you know, j'aime mon lino. On peut sleep over jusqu'au midnight. I know you know, we never go ailleurs que dans mon fabuleux king size. Oh, I don't wanna do be comfy. I'm gonna rester dans mon lit. Where the world can I hurt me? Oh, I'm just a little sleepy. Take a hit right from the wood, backward. Oh, she tamed the way that I wish you. That's right. She's in love with me. Oh, God, it's good. That's right. What I want. Oh, what I want. What I want is just my bed and nothing more. What I want. That's right. Oh, I just wanted to be comfy. I'm gonna stay down my lane. Where the world can I hurt me? Oh, I'm just a little sleepy head. And you know, good morning and let you hang on that two-way telephone. Oh, I just wanted to be comfy. I'm gonna stay down my lane.
C'était Comfy, une chanson de Petit Béliveau et Fouki.
Et juste avant d'aller à ma prochaine entrevue, je ne l'ai pas fait depuis un petit bout, alors je vais vous rappeler qu'au Québec et en Ontario, ça reste chaud. En Ontario, il y a encore des avis de chaleur, et puis mais il fait assez chaud. Hein? On parle encore de 28 degrés, indice humidex autour de 33. Et puis, par contre, dans les provinces atlantiques, c'est ensoleillé, mais les températures sont plus agréables. On parle de 22, 23 degrés, notamment pour Halifax et Saint-Jean de Terre-Neuve. Je peux vous parler aussi du dôme de chaleur hein, qui se maintient en Saskatchewan, Manitoba et Alberta. Et bon, donc, soyez avisés là, que ça va être quand même assez chaud. Il y a des avis de... Il n'y a pas d'avis de chaleur, mais ça reste chaud quand même. Et puis, c'est plus frais en Colombie-Britannique. Bon. Alors, la météo est faite. Et puis, c'est le temps de passer aux super-héros. Ben oui, plongeons au cœur d'une expérience unique qui promet de faire vibrer les super-fans de cinéma et les amateurs de musique orchestrale. Les 15 et 16 août, à la Place des Arts à Montréal, vibrera au son des aventures des Avengers, Spider-Man, les Gardiens de la Galaxie, avec les studios Marvel. Alors, c'est la saga infinie, l'expérience concert. Et pour en parler, je reçois le chef d'orchestre et co-directeur artistique de Film Harmonique. Alors, l'orchestre Philharmonique, eh bien, film, hein, et président de GFN Productions, Francis Choignard. Bienvenue avec nous à l'émission.
Bon matin.
Oui, alors, Francis, on connaît tous l'impact des films des studios Marvel. Hein. On a tous, tout un chacun, vu ces super-héros. Mais on sous-estime parfois la puissance de la musique qui vient avec ça. Alors, d'où est venue l'idée de transformer cette saga en un ciné-concert symphonique?
Donc, c'est vraiment un tout nouveau projet de cette année qui a été créé avec Disney, cette compilation de super-héros, parce qu'évidemment, le monde de Marvel est quand même très grand. Il y a plusieurs films et ça serait presque impossible de tout faire un film un après l'autre. Donc, ils ont décidé de faire une genre de compilation. Donc, on fait vraiment un survol de un peu tout toute l'histoire de Marvel. On commence avec les histoires individuelles avec Captain America, Thor, Iron Man, et après, ben, évidemment, dans les Avengers, le Infinity War et Endgame. Donc, on voit les moments cruciaux dans chacun de ces films avec les thèmes musicaux les plus marquants.
Alors, j'ai dit tout à l'heure que vous dirigez l'orchestre Philharmonique. Je vais vous demander de nous dire c'est quoi, mais en même temps, président de GFN Productions. Alors, c'est quoi ces deux organismes-là et comment ça fonctionne, leur collaboration?
Donc, Philharmonique, c'est un des seuls orchestres au Canada dédié à l'interprétation de musique de film. C'est un orchestre maintenant qui fait près de 75 concerts à travers le Canada. Très souvent en tournée, c'est nos musiciens québécois qu'on apporte en tournée très souvent à Toronto, Ottawa, des fois même l'année dernière à New York. Donc, c'est vraiment un orchestre qui est dédié à ce répertoire. On fait autant la musique de film en synchronisation, donc avec un film, avec des projections, que des concerts symphoniques, comme on a un autre en septembre qui est un hommage à la musique de John Williams. Donc ça, c'est purement orchestral. On met vraiment à l'avant juste la musique. Et de toute façon, on apprécie autant quand il y a un film ou il n'y en a pas, on réalise l'impact que la musique de film a. Même s'il n'y a pas d'image, on peut imaginer tout ce qui se passe.
Et puis, ce projet-là, ce qu'on présente cette fois-ci, s'appelle La Saga de l'Infini. Donc, c'est 23 films, comme on l'a dit. On parle quand même d'une richesse là, de musicale incroyable. On a qu'à nommer là, quelques-uns des compositeurs, Alan Silvestri, Ramin Djawadi, Michael Giacchino. C'est quand même des grandes musiques qu'on connaît, mais qui passent un peu inaperçues parce qu'on est plus intéressé par ce qui se passe. Alors vous ramenez ça au premier rang, là.
Absolument. Donc, c'est vraiment la musique en vedette ici. Et on réalise, parce que maintenant j'étudie les partitions depuis quelques mois maintenant, et vraiment l'orchestration est extrêmement difficile. Tous les instruments de l'orchestre jouent presque tout le long. Les partitures sont très difficiles. Donc vraiment, on met beaucoup d'attention dans un concert comme ça. Et je crois que le public va vraiment réaliser toutes les forces qui vont derrière des trames sonores comme ceux de Marvel.
Alors, comment s'est fait le choix?
C'est un mélange de, évidemment, il fallait toucher un peu à tout, évidemment, avant de rentrer dans le Avengers. Mais ça touche il fallait toucher les grands films de super-héros. Donc, c'est comme j'avais dit, Iron Man, oui. Thor, Captain America. Après ça, évidemment, le Greater Universe, Bigger Universe, donc Spider-Man, Doctor Strange, tout ce qui touche vraiment le Endgame et le Infinity War.
Et si je comprends bien, il y aura je pense que j'ai bien compris, il y a des projections d'extraits de films en même temps que vous allez jouer, c'est ça?
C'est ça. Donc, c'est les moments cruciaux. Disons comme un genre de Captain America, dans un 10 minutes, on fait un genre de survol de ces films, les moments marquants, et après, on passe à un autre. Et après, pour le Infinity War, on fait vraiment les moments importants aussi, chaque Infinity Stone, quand il reçoit les moments de drame.
Deux publics risquent de s'intéresser, en fait, vont s'intéresser à ces concerts. Bon, d'abord, les cinéphiles passionnés de Marvel, mais aussi les mélomanes avertis. Alors, comment on conjugue là, pour plaire à ces deux publics-là, qui sont quand même assez différents?
C'est certain, si vous êtes fan de juste les films, je crois que vous allez vraiment revivre quelque chose d'incroyable, de revivre tous ces moments dans un concert de 2 heures. Mais musicalement, ceux qui sont vraiment passionnés de la musique ici, on voit vraiment, c'est comme un après l'autre, les styles quand même très différents de chaque film. Chaque film a vraiment son propre caractère. C'est comme les thèmes de Iron Man sont très différents. Il y a même du AC/DC qui est cité dans la trame sonore. C'était plus rock. Et après, Black Panther, c'est complètement différent avec des instruments d'influence africaine. Donc, on voit vraiment un survol de plusieurs styles musicaux, mais quand même avec un orchestre symphonique de 75 musiciens.
Wow, c'est quand même beaucoup de monde sur scène en même temps. Ça va être impressionnant, hein, tout ça. C'est pas votre première fois. Si j'ai bien lu dans ma recherche, vous avez fait d'autres concerts, ciné-concerts, Star Wars, ça se peut-tu, et au Seigneur des Anneaux. C'était quoi l'expérience? Comment ça a été reçu?
C'est certain, ça fait partie de nos blockbuster hits. Seigneur des Anneaux en particulier. Maintenant, c'est notre deuxième fois qu'on refait maintenant la trilogie au complet. Ça a été tellement une expérience marquante, autant pour nous, les musiciens aussi, et que le public, je crois, une fois vous l'avez écouté comme ça, c'est difficile à retourner dans le salon pour le regarder comme juste comme ça. Parce que l'expérience ciné-concert, ben, on met vraiment de l'avant la musique et on réalise à quel point cette musique a un impact significatif sur les émotions qu'on ressent avec les images qu'on voit à l'écran. En général, c'est comme quand on écoute chez nous, la musique n'est pas très forte comparée au dialogue et les effets spéciaux et les bruits. Donc, on perd un peu tout ce travail musical de développement de caractère et tout. Donc, je crois que tout le monde qui a commencé à voir ces expériences, il nous suit vraiment pour la trilogie au complet parce qu'il adore ça tellement.
Là, j'ai l'impression que lorsqu'on fait ce genre de travail, c'est clair qu'il y a un intérêt personnel. Alors, vous, les héros de Marvel, ça joue quel rôle dans votre vie autrement que dans la musique?
C'est certain, moi, j'ai grandi avec ces films. Je crois que j'ai vu presque tout jusqu'à Endgame. Éventuellement, c'est comme les Star Wars maintenant, il commence à avoir un peu trop de spin-offs, trop de choses qui ne font pas partie du monde original, mais j'ai grandi avec tous ces films, donc je les connaissais très bien, mais dans mon enfance, j'ai pas nécessairement apprécié la musique la manière que je l'apprécie à l'instant.
Et vous êtes un fervent défenseur du développement de nouveaux publics pour la musique classique. Ça joue un rôle, ça, dans votre façon de voir ça?
Oui, absolument. Donc, on voit vraiment cette désir de redécouvrir un film aussi et la musique dans une expérience en live. Et les gens réalisent à quel point, quand on voit un orchestre symphonique, 75 musiciens, on réalise à quel point il y a le nombre d'artistes qui sont derrière une trame sonore comme Marvel ou Seigneur des Anneaux ou Star Wars.
Alors, je rappelle donc que cette expérience cinématographique et musicale spectaculaire des studios Marvel, La Saga Infinie, l'expérience, c'est un concert qui est présenté à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts, 19h30, les 15 et 16 août prochains. Et je m'entretenais avec Francis Choignard, qui est le co-directeur artistique de Filmharmonique. Mon Dieu, j'ai de la misère à le prononcer. Filmharmonique et président de GFN Productions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Alors, je vous rappelle que Vue et Voix vous invite à une conférence « Intelligence artificielle et handicap visuel, transformer l'accessibilité », un événement 100% virtuel et gratuit qui aura lieu les 16 et 17 septembre prochains. Rassemblera des experts de la technologie de l'éducation et du droit pour explorer l'impact de l'intelligence artificielle sur la vie des personnes ayant une déficience visuelle. Et ça s'adresse non seulement aux experts, mais aussi aux personnes qui vivent avec une déficience visuelle. Pour plus d'informations et pour s'inscrire, eh bien, c'est Conférence Handicap Visuel en un seul mot. Conférence Handicap Visuel en un seul mot.com. La psychologue Hélène David, aujourd'hui, en fait, hier dans la presse, revenait sur la série québécoise Empathie, qui est un chef-d'œuvre, à mon avis, qui sera bientôt diffusée en France sur Canal+. En fait, j'ai vu l'annonce. Alors, l'œuvre, elle qualifie cette œuvre de formidable, qui aborde avec courage les drames liés à la maladie mentale et aux hospitalisations en milieu psychiatrique. En fait, inspirée par sa propre carrière, parce que Mme David a été psychologue, hein, elle a travaillé dans ces milieux-là, elle sait de quoi elle parle, et puis elle loue la capacité de l'autrice Florence Lompré, qui joue le rôle principal d'ailleurs, à présenter la fragilité des patients sans porter de jugement, tout en exposant la vulnérabilité des soignants et l'impact sur les familles. La série contribue à mieux comprendre ces troubles et qui font souvent peur, hein, et à développer notre empathie. Un succès mérité qui humanise des problèmes de santé mentale trop souvent méconnus. En fait, je vais peut-être faire un petit effort pour inviter Mme David, s'il me reste du temps dans mes émissions la semaine prochaine. J'ai le temps de vous parler d'une subvention de 740 000 $. La régie donc de police Richelieu Saint-Laurent a mis en place un projet pilote novateur pour la santé mentale. L'agente Nadia de Lille-Belluze est la policière dédiée à plein temps à l'équipe de soutien à l'intervention psychosociale, ou SIP. En duo avec un travailleur social, elle se rend sur les lieux d'une crise pour stabiliser la situation et orienter les personnes vulnérables vers des ressources appropriées. C'est une initiative qui vise à réduire les interventions policières en matière de santé mentale, permet aux policiers et aux travailleurs sociaux de collaborer pour offrir un meilleur soutien. L'agente de Lille-Belluze affirme que cette approche plus humaine est ce qu'elle a toujours voulu faire. Ce projet est une avancée significative pour la région. C'était du journal de Chambly du 13 août. Mais on arrive à la fin de l'émission. Je vous rappelle que les textes que je vous lis, je les ai faits avec l'aide de l'intelligence artificielle Gemini. Je lui demande de faire certaines choses pour moi, dont la prévision météo et tout. Alors, je le dis par souci de transparence, mais sachez que je revérifie en arrière ce qu'on me donne. J'ai le temps de vous dire un petit au revoir, de passer un bon week-end. Nous, on prend une pause demain, vendredi. On est de retour lundi, même heure, même endroit, à Canal M. Merci, Samuel Badel, pour ce beau travail cette semaine. Je m'appelle Denis-Martin Chabot. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et à lundi.